question, je pense une demi-heure. Une demi-heure, ça devrait être bon. Est-ce que ça va...
Non, c'est bon, ça devrait aller, oui.
Ça va aller. Alors, en fait, on a... le cas de Monsieur Marc, qui est donc en service de gastro-entérologie. Et donc, c'est un homme de 50 ans, hospitalisé dans le service donc, depuis 2 semaines, pour une hématémèse et méléna. Donc, il a fait une hémorragie digestive haute sur alcoolisation aiguë, dans un contexte d'éthylisme chronique et de tabagisme. Donc, une double addictologie. Addiction, je veux dire.
Si tu veux, on peut
faire plutôt
un petit résumé aussi.
Plutôt le résumé.
Ça peut, voilà.
Ouais. Donc, à son arrivée, il présentait des troubles neurologiques, tremblements généralisés, incoordination motrice. Il a également présenté un syndrome confusionnel, signe d'une encéphalopathie. Donc, le médecin a abordé avec lui son problème avec l'alcool et il ne dit rien envisager et il est peu réceptif. Son épouse, très présente, est épuisée et se sent coupable. Elle a eu très peur de l'épisode d'encéphalopathie.
D'accord. Ça, c'est des objectifs pour notre en groupe. Donc, en fait, on a fait des questions par rapport à ces objectifs-là qu'on va vous poser. On en a 9 ou 10.
D'accord.
Est-ce qu'il y a des informations que vous voudriez savoir peut-être en plus par rapport à cette, à ce qu'on vient de vous dire en résumé sur le patient? Bon, on ne sait pas s'il a été hospitalisé plusieurs fois,
ouais,
mais
c'est, ça,
il est chronique, hein, ouais. Il est alcoolique chronique. Ouais, donc, okay, mathémèse, mais là, ouais.
D'accord, donc il y a une
mais là, il est conscient ou il est en encéphalopathie?
Il est conscient, alors là, ça fait 15 jours, on est à J15.
Voilà, on est à J15, là.
Et
d'accord.
Donc il a
passé le sevrage,
ouais.
Tout ça.
Il est sorti de son encéphalopathie.
Il n'est plus en encéphalopathie.
Sorti de l'encéphalopathie. Mm-hmm.
D'accord.
Donc il reste peu réceptif et
voilà,
il est bien envisagé quand on parle de sa maladie.
Voilà. Ok.
Donc dans ce cas, donc de patient, ce cas entre guillemets, donc il est peu réceptif, comment vous pourriez faire pour agir sur son cas à J15 au niveau de sa maladie? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous mettez en place ici si vous rencontrez des cas similaires à celui-ci?
En place sur le plan de son déni de son alcoolisme, c'est ça? Mmh,
mmh.
À J15. C'est bien difficile parce que là effectivement le déni de l'alcoolisme à J15 après c'est vrai que quand les gens ont des complications comme ça, on essaie de s'appuyer sur les complications. Donc après c'est vrai que à ce malade là bon, il faudrait déjà savoir pourquoi il boit, dans quel contexte socio-familial il est, s'il a des problèmes judiciaires, s'il a des problèmes sociaux, s'il a des problèmes professionnels et tout. Donc chercher pourquoi déjà il boit. Donc, trouver pourquoi il boit. Est-ce que c'est parce qu'il a des problèmes familiaux? Est-ce qu'il est en conflit avec sa femme? Est-ce qu'il... En général, il y a tout, hein, de toute façon. On va tout trouver. Donc après, en général, ils ont des problèmes judiciaires, ils ont des problèmes de boulot, parce qu'en général, ils ont des problèmes familiaux, parce qu'en général, il y a toujours des problèmes, ça entraîne des problèmes conjugaux avec les enfants, tout ça. Donc, savoir pourquoi il boit, quoi, parce que il faut savoir. Ouais. Après, il faut l'amener à. Parce que là, il est vraiment au premier stade, c'est-à-dire qu'il est plus réceptif. Donc, il faut l'amener à lui faire comprendre qu'il a quand même un usage nocif, c'est-à-dire qu'il est arrivé au stade de cirrhose, et lui faire comprendre que là, on est quand même. Dans une cirrhose décompensée avec une encéphalopathie, on est quand même à une espérance de vie de 6 mois, quoi, si on ne fait rien. Et donc là, on n'est pas dans un truc standard où c'est un malade alcoolique chronique qui n'a pas de complications, où on a le temps. Quoi.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire qu'on a le temps, voilà, il faut que vous y réfléchissiez, on vous revoit dans 2 mois pour faire le point, ou comment vous allez... On n'a plus trop le temps de le laisser réfléchir, là. Hein, parce que là, l'espérance de vie d'une cirrhose décompensée avec encéphalopathie, c'est 6 mois. Hein. Donc, à 6 mois, il y a 50% qui sont morts.
Ah oui, d'accord.
Hein, avec hématémèse, il y en a 6. Donc là, le cas clinique est un petit peu biaisé dans le cas de l'addiction. Hein, parce que là, vous travaillez sur de l'addiction. Oui. Et là, on est un petit peu biaisé du fait qu'on est dans... une maladie mortelle à court terme. Quoi. Donc c'est difficile comme travail, ça.
C'est difficile.
Ouais. On ne part pas sur un cas d'addicto classique, quoi, où on a le temps de revoir le patient, de savoir où il en est. Là, on n'a plus trop le temps. Quoi. Donc il faut vite quand même l'amener, parce qu'en général, bon, comme on dit souvent, il faut que ce soit les patients qui arrivent à faire les...
Hein,
vous connaissez le schéma de Prochaska?
Jusqu'à...
Peut-être vous schéma de Prochaska. C'est sur Internet, il n'y a pas de souci. Ouais. Hein, c'est le patient...
Ça s'écrit comment, Prochaska?
P-R-O... Mm-hmm. S-C-H-A... S-K, je crois. C'est, vous savez, c'est comme dans toutes les addictions où le patient, il est content, il s'intoxique, il est content. À un moment, il prend conscience qu'il faudrait peut-être qu'il arrête. Après... Il dit qu'il faut qu'il arrête, après il arrête, après il est en abstinence, et après soit il continue l'abstinence, soit il retombe dans... C'est tout un cercle comme ça, c'est le schéma de Prochaska. Donc là, si vous voulez, en général dans l'addicto, voilà, on a le temps, surtout en alcoologie, on a le temps. Il n'y a pas de risque infectieux, il n'y a pas de risque d'overdose, donc on a le temps. Mais là, on n'a plus trop le temps. Quoi. Donc là, l'espérance de vie est de 6 mois, et il va falloir quand même vite... Vite lui faire comprendre que son pronostic vital est engagé à moyen terme. Quoi.
Comment vous pouvez lui informer pour qu'il comprenne?
Moi, je ne suis pas spécialiste. Oui. Là, il faut quand même être assez clair. Il faut lui donner quand même... Parce que là, on est quand même dans une obligation de... d'informations sur un pronostic vital à court terme, et on est quand même dans... Il faut être quand même assez clair, quoi, parce que j'en avais discuté justement, j'ai été en formation il n'y a pas longtemps à cause de ça. C'est vrai que on avait discuté de ces problèmes de motivation des gens, et c'est vrai que les psychiatres n'ont pas trop la même approche que moi. J'avais pris le cas d'une dame qui avait une pancréatite aiguë grave au bord de l'aria. Donc à la prochaine intoxication, si elle se réintoxiquait, elle risquait de finir en aria, voire de décéder. Donc c'est le même cas que votre patient.
Est-ce que vous avez étudié une approche, par exemple, de cette patiente, comment vous pouviez vous y prendre?
Là justement, comme c'est le même cas que votre patient, faut être quand même très clair, quoi. Faut être très clair
avec la personne.
Pour moi, quoi, parce qu'on peut pas dire bon. C'est pas grave, si vous avez une rechute, non, c'est pas le cas chez eux, donc là, il faut quand même être assez clair. Là, on est dans l'obligation médico-légale d'informer clairement les gens de leur risque, quoi. Surtout que c'est des gens qui peuvent d'un jour à l'autre vous signer une décharge et partir, donc il faut quand même... Donc voilà, il faut quand même être clair, quoi, il faut quand même être clair... Là, vis-à-vis du pronostic vital, quand même, normalement, il faut éviter de braquer les gens, mais malheureusement, là, on est quand même un petit peu pressé dans le cas de monsieur. Là.
Au niveau infirmier, quelle relation on peut avoir avec une personne, je crois que vous avez rencontré des personnes d'un cas similaire, peut-être dans le service. De votre expérience, quelle approche vous avez eue par rapport à ces personnes dans le déni, ces personnes, je pense qu'il y avait peut-être de l'agressivité, il y avait peut-être une tension relationnelle.
Ça dépend dans quel cas ils sont. Quand ils sont dans le déni, en fait, on n'arrive pas à discuter, hein, on peut pas en parler. C'est vrai que des fois ils peuvent être agressifs. Ouais. Des fois, ils peuvent être agressifs, mais c'est vrai qu'on arrive des fois plus facilement à discuter en tant qu'infirmière qu'avec le médecin qui apporte Enfin, c'est toujours plus difficile d'entendre le médecin qui dit ben voilà, il risque le décès, alors qu'avec nous, des fois, ils arrivent plus à se confier sur pourquoi ils boivent. Et, mais je pense que des fois, on arrive peut-être plus facilement à, ouais, à parler. Mais...
Donc, au niveau de sa femme, vous avez aussi une relation particulière, peut-être. Est-ce que vous allez solliciter sa femme, vous pensez, par exemple, dans un cas similaire, pour l'aider à sortir de cette maladie, de lui faire voir cette maladie?
Ben souvent, les familles sont face à un problème parce qu'ils n'arrivent jamais à leur faire comprendre qu'il faut arrêter de boire. Ils ont du mal de... Ils se confient. Enfin, ils aimeraient qu'on fasse quelque chose hein, pour qu'ils arrêtent de boire. Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est juste enregistré.
Oui, je ne fais pas beaucoup de bien pour l'instant. Fabrice, j'ai pu penser, demain c'est les coloscopies. Pour les figures.
Je ne sais plus où j'en étais. Oui, les familles. Qu'est-ce que je peux dire sur les familles?
Donc par exemple, sa femme est culpabilise.
Ah oui, d'accord.
Comment c'est donc elle voilà, se culpabilise, elle est très anxieuse. Quelle approche vous pensez que vous auriez par rapport à sa femme?
Ben, déjà, c'est de l'écouter au maximum, hein, d'écouter quelle est sa souffrance, après d'expliquer un petit peu dans l'état où il est. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, quoi. C'est ça qu'il faut essayer de lui faire comprendre, et puis qu'elle soit là pour le soutenir et essayer de la déculpabiliser un petit peu de fait qu'il boive. Et que souvent aussi, c'est de dire que l'alcoolisme aussi, c'est une maladie et que.
Je peux faire un stage.
Voilà, il faut que ça se traite et que c'est très long aussi. Hein, c'est... Voilà, je trouve pas trop mes mots.
Oui, je parle justement de sa femme. Est-ce que vous avez peut-être une approche différente en tant que médecin?
Non, en général, tu disais de les solliciter. Ça fait des années et des années qu'ils sont sollicités. Quoi. En général, ils arrivent, c'est le burn-out. Ouais. En général, au lieu de les solliciter, il faut les...
Les détacher plutôt?
Les détacher, bon, sauf s'il y a vraiment une implication vraiment dans la pathologie de la famille. Hein. Des fois, c'est des familles pathologiques. Donc là, je pense à une famille où la dame était handicapée et c'est le mari qui faisait les courses et qui lui ramenait l'alcool. Donc là, bon, il faut l'impliquer à 100%, lui dire. Tu te rappelles de cette dame? Donc là,
il rentrait dans le cercle.
Dans le cas classique, quand même, non. Dans le cas classique, là, il faut les mettre. Voilà, il faut les dédramatiser parce que c'est clair que la plupart du temps,
ils sont complètement.
Ils se sentent coupables d'avoir laissé l'autre faire. Donc il faut les soutenir, voilà, leur dire que ma foi, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais qu'ils ne peuvent pas faire à la place de... Et puis, il y a une consultation au centre, au CCA, pour justement les familles vers le psychologue. Il y a une consultation pour les familles, justement, parce qu'effectivement, en général, à côté du malade, que la pathologie, il y a les familles qui souffrent. Il y a une consultation spéciale avec un psychologue qui est là pour les familles des malades. Quoi. Okay.
Donc vous orientez les familles vers...
Oui, parce que c'est vrai que bon... Mais bon, des fois, la pathologie est familiale, donc il faut voir tout le monde en même temps. Ouais, okay. Malheureusement, ici, c'est pas trop le cas, mais il faut... Mais en tout cas, en général, au lieu de les impliquer, on essaie plutôt, parce que ça fait des années et des années qu'ils sont impliqués, plutôt de... Voilà, quoi.
Ouais, surtout que là, dans ce cas, ben justement, elle est au bord de l'épuisement. Quoi,
Fait. Donc là, il faut la soutenir, il faut avoir de l'empathie, et puis voilà, et puis faire pour... Et donc, ce truc-là, moi, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps que c'est là. Reçoit des familles.
C'est bon, ça va.
Patricia, les cordons.
Okay. Donc, au niveau de l'encéphalopathie de M. Marc, est-ce que ça influence la façon dont il comprend sa situation?
Bah, s'il est sorti de l'encéphalopathie, non?
Il y a un J15, normalement, il devrait être sorti.
Ouais, normalement, parce qu'il y a des encéphalopathies qui sont plus ou moins chroniques, qui sont plus ou moins fluctuantes. Après, oui, là on ne peut pas savoir, quoi, mais s'il n'a pas de désorientation, s'il a un examen clinique neurologique qui est normal, bon, à J15 en général, on reste rarement 15 jours en encéphalopathie. Il y a des très rares cas d'encéphalopathie chronique, il y a quelques cas d'encéphalopathie fluctuante, mais bon, là.
Donc on va dire, là, il est donc peu réceptif à ce jour, c'est lui, c'est.
Bon, on peut comprendre que le médecin aborde à la vitesse ton problème d'alcoolisme, on peut quand même se dire que le jugement du médecin fait qu'il pense qu'il n'est plus en encéphalopathie, quoi.
Oui.
Ouais. Oui. Enfin, je sais pas, moi je comprends ça comme ça, autrement c'est complètement idiot. Voilà.
Donc, oui, donc il est en faculté de penser par lui-même. Hein,
bah, a priori plus d'infos, autrement, oui, il est déperfusé. Mmh. Moi, je comprends ça. Comme je vous dis, c'est quand même rare de les laisser 15 jours en encéphalopathie en général. Soit ça va mal, soit ça va pas bien au bout de 4-5 jours en encéphalopathie quand même.
Donc, ça fait, on peut l'orienter vers un psychologue. Lui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour son avenir?
Bah lui, il faut le suivre quand même, hein, vraiment, sur un plan somatique déjà. Hein, oui, parce que, bon, après, hein, quand ils arrivent en décompensation comme ça, le statut de sa cirrhose, il faut quand même le reprendre à distance. Bon, d'après quand même les chiffres qu'il y a, encéphalopathie, ascite, hématémèse, melena, bon, il a quand même une cirrhose, chai pluxé, donc...
fonctionner aussi.
Ouais, donc
la ponction d'acide.
Donc a priori il est en chai pluxé, quoi. Donc après il faut voir un petit peu ce qui va arriver pour lui, parce que il peut très bien avoir une récupération s'il reste stable. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi. Après,
juste combien de temps ce genre de patient reste ici,
combien de temps
en moyenne?
Enfin, ouais, en moyenne, moi, là, c'est quand même un cas vraiment torché. Là. Ouais. Bon, il est à J15. Oui, 15, 3 semaines, oui. C'est, ouais. Oui, c'est...
Encore oui. 3 ou 3 semaines.
Ah non, en tout. Ouais. Ah, oui, effectivement, là, parce qu'il y a quand même encéphalopathie, hématémèse. Donc lui, il va falloir quand même lui faire un protocole quand même de sclérose des varices. Et puis le revoir à distance, parce que soit il récupère une fonction hépatique correcte avec une vie, soit il va falloir peut-être le mettre sous liste de greffe, parce qu'il est quand même jeune, quoi, 50 ans. Voilà,
quoi. Donc le sevrage au niveau psychologique, comment vous le prenez en charge? Qu'est-ce que vous mettez en place?
Nous,
est-ce que vous pouvez mettre des choses en place?
Nous, non, puisque nous, on est somaticiens ici. Hein, au niveau psychologique, bon, on n'a pas trop de ressources. Sinon, à les envoyer au CCA, justement, où il y a un suivi psychologique et médical. Hein. Mm-hmm. Après, ici, c'est vrai qu'on s'occupe souvent quand même plus du somatique. Quoi. C'est vrai que sur le plan psychologique, c'est vrai que... On a quand même peu de d'outils, quoi. Parce que sur le plan psychiatrique, bon, il y a Monsieur Mecker qui fait des consultations. Oui. Ah, mais bon, les psychiatres vous diront, une consultation ponctuelle comme ça, c'est peu. Ouais. Bon, on peut détecter des choses, mais après, pour mettre en place un suivi, quoi. Voilà, c'est difficile quand même de faire quelquefois des diagnostics et puis. Bon, c'est vrai qu'il va falloir.
Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait tous ces séquelles somatiques, est-ce que ça peut inviter M. Marc à prendre conscience de sa maladie?
Ça dépend.
Ça dépend
pourquoi il s'alcoolise. Si c'est vraiment une conduite alcoolique sur un gros terrain psychiatrique. Parce qu'il y a des gens quand même, ils ont des grosses alcoolisations, c'est quand même des équivalents suicidaires, quoi. Ça dépend franchement de la cause de son alcoolisme, ça dépend après du soutien qu'il va avoir, de comment d'où on va l'amener sur le diagramme, si on va pouvoir l'amener à prendre conscience. Et puis voilà, quoi. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Quand même. Beaucoup de...
Qu'est-ce qui pourrait favoriser cette prise de conscience? Donc, ben, du côté organique.
Moi, franchement, ouais. Ouais. Bon, après. Déjà, oui, de l'informer quand même, un minimum, quand même, comme je vous ai dit, être quand même clair, hein, un minimum, parce que là, comme je vous disais, on n'a pas trop le temps. Et puis après, il faut quand même une prise en charge globale, somatique, psychologique, sociale. Bon, il faut les sortir de leur pétrin, parce qu'en général, comme on a dit au départ, ils sont quand même dans un. L'alcool, c'est quand même quelque chose. Qui prend toute la vie globalement, quoi, familiale, sociale, professionnelle, je vous dis, dès qu'ils n'ont pas des problèmes judiciaires. Donc il faut c'est tout un environnement, bon, il faut lui faire prendre conscience que c'est possible aussi qu'il s'en sorte, et puis que voilà, que c'est... Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas de...
On travaille quand même pas mal avec les assistantes sociales, hein. Il y a pas mal de... problèmes de mutuelle ou de sécurité sociale, les assistantes sociales, ils sont quand même sollicités. Hein.
Et donc ça, c'est, des fois, c'est le problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas notion eux-mêmes qu'ils peuvent se faire aider. Donc faut leur dire, voilà, on a plein d'outils, on peut vous aider, si vous le voulez, hein, si vous voulez, hein, parce que... J'ai l'exemple d'un monsieur qui était, il voulait pas qu'on l'aide, c'était pas, voilà, il est resté complètement. Après, lui, c'était pas comme monsieur des fois le refus fait que ils rentrent chez eux et puis ils rechutent. La rechute, ils se disent, des fois c'est constructif la rechute. Ils peuvent se dire, il avait raison, il faut que je me fasse aider. Bon, là, je vous dis, là, le cas est un peu biaisé parce que on n'a pas trop le temps avec ce monsieur. Quoi.
Il n'a pas trop le droit à une rechute, en fait.
Tout à fait,
ouais.
Est-ce que donc vous avez des liens avec les psychologues du CCA?
Moi, je leur adresse. Enfin, je demande. Je leur adresse, j'en parle avec le patient, voilà, il y a le CCA où il y a un suivi au long cours, parce que c'est ça l'intéressant, c'est qu'il faut un suivi au long cours. Il ne faut pas qu'ils viennent trois fois en consultation, et puis voilà quoi. Il faut vraiment un suivi long, pluridisciplinaire. Donc c'est l'intérêt du CCA, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a les assistantes sociales, et c'est vrai qu'ils sont suivis au long cours. Donc
ils sont suivis par l'équipe.
Voilà, donc moi je leur demande, voilà, vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, j'envoie un double du courrier au CCA, au médecin du CCA, mais je leur laisse quand même le soin de prendre rendez-vous, tout ça, parce qu'il faut quand même que ça vienne d'eux aussi, et puis voilà, ça s'implique, qui s'implique dans leur thérapeutique, quoi, parce que après, si on fait tout, déjà ils y vont pas. Et puis voilà. Donc, en général, je les laisse s'impliquer à prendre rendez-vous. Moi, je fais un double du courrier. Et eux...
Par exemple, il a sa femme qui est ressource. Est-ce que vous dites, pour par exemple, simplement cette prise de rendez-vous au CCA, est-ce que vous faites cette information avec le patient et sa femme? Est-ce que seulement avec sa femme, est-ce qu'il faut...
Il faut éviter de les infantiliser quand même. Hein, parce que,
les deux en même temps.
Voilà, il faut leur dire qu'ils ont des aides, qu'on peut les aider. Mais il faut leur laisser aussi toujours à l'idée que c'est quand même à eux que ça vient. C'est l'adage qui dit toujours, c'est déjà eux qui... Donc, faut leur pas trop les infantiliser non plus, quoi, Si comme ici il est sorti l'encéphalopathie, bon voilà quoi. Après ça dépend comment on les sent. Quoi. Si on les sent trop limite, on peut toujours dire à la femme. Mais bon, s'il est vraiment bien, il faut éviter de les infantiliser. Enfin, je pense. Hein, il faut toujours leur laisser comprendre que ça les valorise aussi, hein, de dire que bon, vous allez vous prendre en charge. On va vous aider, mais vous allez vous prendre en charge. C'est valorisant aussi, quoi.
Donc, si ça arrête de consommer, pensez que dans cet état-là, au niveau sirop, au niveau organique, ça peut s'améliorer.
Ça peut pas être pire en tout cas.
Ça peut...
Après, est-ce que ça peut s'améliorer? Ça, c'est pas pensez trop que... prévisible. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire des suivis vraiment cliniques, biologiques. De toute façon, il va être obligé d'avoir tous les 6 mois une écho avec des alpha-fétaux pour éventuellement dépister la survenue d'un CHC. Il va falloir apparemment lui faire un programme de sclérose de varices. Donc, de toute façon, il va être entre guillemets obligé de venir à l'hôpital. Donc,
donc il faut qu'il se sente bien. Ouais. Il se sent bien investi. Que
tout à fait, ouais, parce que si après là. S'il vient pas, il faut bien lui faire comprendre. Mais il faut tout ça, c'est surtout là, pour il faut le déculpabiliser ces gens, quoi, parce qu'en général ils disent voilà, de toute façon je suis une grosse merde, ça sert à rien. Donc souvent faut les déculpabiliser, il faut bien faire un travail de fond, quoi, qui est pas forcément évident.
Ce travail-là, vous pouvez un peu le faire lors des visites.
Ouais, ouais, bah, on essaie, tout à fait. Ben, personnellement, j'essaie un peu de leur expliquer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, et puis
un patient qui demande de, qui veut boire, par exemple, un patient comme lui qui veut boire, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour être
bah pareil, il faut être clair avec lui, faut leur dire que s'il se réalcoolise, il va retomber dans l'encéphalopathie, et puis voilà, puis son pronostic vital sera engagé. Mais bon, là, il réclamait de l'alcool parce qu'il était en encéphalopathie, voire même en délirium. Voilà, quoi. Ouais. En général, c'est pour ça, les malades très agités réclamaient de l'alcool. Ça, c'est plutôt
délirium.
Hein. Ouais. Encéphalopathie, c'est plutôt quand même plutôt calme. Hein. Ils tombent dans le coma. Hein. C'est un coma calme. Tandis que là, le malade agité, tremblement, incoordination, fièvre, sueur, c'est plutôt un délirium. Quoi. Après, bon, c'est souvent que c'est un briquet. Quoi.
Un briquet, c'est-à-dire le délirium et
l'encéphalopathie.
Et l'encéphalopathie. Donc,
bon, là, réclamer de l'alcool, il faut plutôt le mettre sur un délirium plutôt que sur une vraie
demande.
Une vraie demande. Quoi.
Okay. D'accord. Un pourcentage, ça serait un peu peut-être trop demandé. Est-ce que vous avez régulièrement dans sa vie des personnes, à peu près combien, peut-être combien dans, par mois ou dans l'année, des patients qui...
Ce type de tableau ?
Ça dépend des périodes.
Oui, en général, il y a des périodes de poussée. Mm. Des comme ça, à la louche, 6 par an.
Ouais.
Un tableau comme ça, parce que là, en général, ils ont soit l'un, soit l'autre. Là, un tableau, tableau comme ça, si on en a 6 par an, oui, ce sera déjà bien, parce que vraiment, là, oui. Là, pronostic vital vraiment.
Vous dites il y a des périodes, c'est par rapport à la culture, par rapport à au niveau de l'année, des événements culturels qui se passent, autre chose.
Alors là, franchement, j'ai jamais étudié. Non.
D'accord. C'était une question.
Non.
Des fois, on se fait des réflexions, oui, si ça arrive l'entrée de l'hiver.
Oui.
Des fois,
quand il fait très chaud, quand il fait très froid.
D'accord.
Mais franchement, on n'a jamais trop étudié.
Il faudrait faire des stats, mais là, franchement, j'aurais incapable de vous dire.
Donc, il fume aussi. Donc, déjà s'occuper de son problème d'alcoolisme, c'est...
Oui, parce que là, c'est...
Donc, est-ce que le problème du tabac, est-ce qu'on on le retient comme un problème à traiter secondairement ou on le met de côté? Au souci du tabac.
Ça, c'est, ou est-ce qu'il faut traiter les deux en même temps, en
fait, là, alors là, c'est... en CAPA d'addicto, c'est une grosse question. Ça. Il y en a qui disent qu'il faut faire les deux, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire les deux.
Alors, les avis sont partagés.
Là, déjà, il n'est pas prêt à en faire un. Donc, en faire deux, ça m'étonnerait. Après, n'empêche que, effectivement, si vous le tenez, qu'il est sorti de son encéphalopathie, normalement... il faut quand même évaluer ses EFR pour voir effectivement à quel niveau de son intoxication tabagique il est, parce qu'effectivement si on lui dit que on va le guérir de sa cirrhose et puis que 3 ans plus tard il fait un cancer bronchique, voilà quoi. Tout à fait, normalement oui, une addiction est une addiction, et si on veut il faut être Mais bon, après, sur la pratique, c'est difficile, quoi. Les gens, en général, ils s'intoxiquent pour une région, c'est des béquilles à quelque chose. Si vous enlevez une béquille, ils boitent, et puis si vous enlevez les deux béquilles, ils se cassent la gueule, quoi. Donc après, il faut être très très prudent quand même sur... pas être plus royaliste que le roi, quoi. Des fois, y a la notion dictée de diminution du risque, hein, c'est-à-dire que, bon, lui, point de vue alcool, ça va pas être très possible de lui faire baisser sa consommation, parce que là, faut le sevrer. Point de vue tabac, c'est pas évident qu'on puisse pas lui demander moins qu'un sevrage, c'est-à-dire une diminution de sa consommation. Hein, c'est admis en tabaco, en alcoolologie, c'est en train d'être discuté. Mais pourquoi pas juste quand même. Bon, je vous dis, il faut déjà voir sa fonction ventilatoire, voir un petit peu comment ça se passe, s'il a déjà des conséquences, pour justement encore, si c'est nécessaire, l'amener à réfléchir sur sa deuxième addiction.
Donc l'arrêt du tabac est envisagé dès cette hospitalisation-là, en fait,
non. Là, ce qui est envisagé, c'est comme vous le tenez, hein, peut-être que vous le reverrez jamais, au moins lui faire des EFR pour avoir après. Si... Parce qu'après, bon, même si on ne le tient plus, on va envoyer un double du courrier au médecin traitant en disant voilà, sur le plan. Et puis après, bon, un jour, s'il a besoin, voilà, le médecin traitant aura dit.
C'est plutôt médecin traitant.
Là, à mon avis, là, il faut quand même. S'attaquer au risque vital imminent avant de le sevrer en tabac. Mmh. Mmh.
Est-ce que tu as une question encore,
Pierre ? Non.
C'est bon.
Donc en fait, pour résumer, c'est un cas très problématique, ça.
Ah oui, tout à fait. Alors.
Du fait qu'il est dans le déni et.
Du fait qu'il est dans le déni, du fait qu'il a une espérance de vie à court terme engagée. Ouais, c'est vraiment un cas difficile. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, sur le point de vue addicto, je vous dis, j'en ai parlé un coup. Bon, c'était une maladie, une pancréatite aiguë grave. C'est quand même biaisé, quoi. Vous auriez dû quand même avoir un cas un peu moins. Là, l'addicto, bon, il faut prendre son temps justement, parce que justement, il est juste au début du truc de Prochaska. Là, donc, là, ça va mettre du temps à lui faire cheminer jusqu'au sevrage. Quoi. Et là, il manque de temps. Quoi. Donc après, contraindre les gens. Comme je vous dis, avec une information déculpabilisante mais claire, ça peut quand même les braquer, quoi. Soit ça leur fait un déclic, soit ça peut être contre-productif. Voilà, c'est ça qui est difficile dans ce cas-là. Quoi.
C'est la roulette russe, un peu, alors, d'évoquer...
Ça dépend comment on le fait aussi, quoi. Ouais. Ça dépend comment on le fait aussi. Hein. On peut mettre trois balles dans le barillet, comme on en fait une, quoi. Mais ouais, là, c'est quand même difficile. C'est un cas difficile, point de vue addicto, quoi. Je pense que...
On a déjà un peu évoqué, et puis ça me revient parce qu'on a fait un plan cet après-midi. On aimerait aborder la relation d'aide, s'il y en a qui était faite dans le service, en fait, auprès du patient et de sa femme. La relation vraiment d'aide, est-ce que vous l'abordez en tant qu'infirmière sur un patient de ce type-là?
Non, c'est difficile, hein. C'est difficile déjà par le temps.
Oui.
Puis après, ça dépend quel patient, ça dépend dans quel stade il est. Moi, je vous dis, la relation d'aide avec la famille, ben, j'écoute beaucoup la famille. Hein, j'essaie de discuter, de leur expliquer dans l'état où il est, les soins qu'on leur fait. Mais la relation d'aide avec le patient, ben, pour moi, c'est conflictuel parce que souvent, quand ils sont dans le déni, ben, je ne sais pas trop comment aborder... l'alcoolisme ou autre, parce que le médecin, je sais qu'il est derrière et qu'il explique tout. Donc, moi, j'en parle pas forcément. Après, s'il vient à m'en parler, je peux essayer d'en parler avec lui, mais c'est pas évident, hein, je trouve. Je trouve pas mes mots, mais moi, je suis beaucoup à l'écoute. Voilà, moi, je joue beaucoup sur l'écoute. Sur l'écoute et...
Si après il est donc pris en charge aussi par le CCA où il y a toute une équipe psychologue et tout, il aura une relation qui pourra l'aider avec les professionnels, pour creuser.
Je vous dis souvent le problème, c'est qu'ils savent même pas qu'ils peuvent demander de l'aide. C'est ça, hein, ça des fois c'est même pas compliqué, c'est qu'ils savent même pas. Donc, je vous dis déjà, déculpabiliser, informer, et puis orienter, c'est quand même beaucoup de gens chez des gens qui sont vraiment dans la, qui ont la tête dans le sac, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. Donc, des fois, c'est, on a l'impression qu'on ne fait pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'ici, on est quand même axé quand même sur le somatique, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on fait pas beaucoup, mais en fait on en fait pas mal, quoi. Après, c'est vrai que bon, malheureusement, bon, on va essayer quand même de développer de quelques lits d'addictologie et puis peut-être de faire des formations, pour les infirmières et tout ça. Et peut-être qu'on aura peut-être un travail de fond, et puis après, bon, peut-être que je vous montrerai une consultation d'addicto. Mais c'est vrai que pour l'instant, notre point faible, c'est peut-être le suivi au long terme sur le plan psycho-somatique, quoi, un petit peu d'imbriquer les deux. Quoi. Parce que souvent, c'est des gens aussi qui ont du mal d'aller chez les psychiatres, hein, ça c'est clair. Hein. Ils sont pas fous. Voilà. Donc, déjà, leur dire qu'ils sont malades, des fois, c'est dur. Mais alors, les envoyer chez le psychiatre, là, c'est complètement... c'est 90%, c'est complètement hors de question. Donc, c'est vrai que si on avait une structure... Donc, on est en train d'essayer de monter ça avec M. Jobard.
Donc, c'est en projet, là, en fait.
Voilà, c'est en projet. Là, moi, je suis en formation en capacité d'addicto, en deuxième année. Et puis, donc, dans le projet de faire 4 lits réservés à l'addicto dans le service. Ouais. Tout ce qui est, c'est sûr que c'est pas le problème dans la société française. Alors, sur Montbéliard, c'est surtout l'alcool. Mais bon, il y aura aussi les sevrages héroïne, voilà, quoi. Et puis toutes les autres addictions. Quoi. Voilà.
J'ai une question. Dernière. Hein. Donc, quand vous abordez un cas comme monsieur, donc l'autisme chronique avec le somatique, enfin beaucoup de percussions. Sa femme, donc, bon, bien sûr, qui est voilà, épuisée, il a peu de ressources. C'est peut-être un peu dérangeant ce que je vais vous demander. Comment vous le percevez, ce cas? Au niveau. Je pense pas forcément des données scientifiques ou des choses, mais disons. Niveau, vous pensez que c'est un patient qui peut s'en sortir, ou est-ce que vous dites bon, c'est pas gagné, c'est pas.
On a une pensée, une mauvaise pensée par rapport au patient parce qu'il boit, parce que.
Par exemple.
Ouais.
Par exemple. C'est un peu dérangeant.
Je pense qu'il y a des fois on en boit tellement que. Ou alors quand ils reviennent et puis qu'on sait qu'ils ont rechuté, c'est sûr que des fois on peut avoir des pensées comme ça parce qu'on se dit ben voilà, on a essayé de faire quelque chose et puis ben il revient, quoi. Donc c'est vrai que des fois on y pense aussi, hein, c'est un peu des fois le ras-le-bol ou l'impuissance, je pense, de voir qu'ils s'en sortent pas.
Hein. Bon, nous de toute façon quand on regardait le cas, c'est vrai que certains, on est donc une dizaine dans le groupe, il y avait certains qui disaient, bon, qui ont déjà été en stage, qui ont vécu des situations, pas avec un cas aussi grave, mais dire, bon, c'était pas beaucoup pensé, oui, c'était pas gagné.
Non, c'est même pas ça.
C'est...
Ouais, si on me demandait quelque chose, je dirais 80-20, à 6 mois. Parce que là, il est vraiment vraiment dans le déni complet. Là, franchement, moi, j'ai vraiment une mauvaise impression sur un cas comme ça, quoi. Je pense que un mois plus tard, il est de nouveau à l'hôpital. Trois mois plus tard, il est de nouveau à l'hôpital. Ça, c'est des gens qui vont revenir. Et franchement, moi, je parierais pas de l'argent sur ce monsieur, quoi. Ça, c'est vraiment il a vraiment un mauvais tableau, vraiment très préoccupant, moi, tout à fait.
Parce que on pensait que, comme vous dites, au niveau du déni, on se demandait ce qu'on pouvait faire, nous, bon, c'est vrai qu'on est, on se pense être infirmier, du point de vue infirmier, ce qu'on pouvait peut-être faire pour l'amener à voir qu'il est malade, qu'il a une dépendance, qu'il a une... On se demandait, en fait. C'est vrai que certains se disaient que c'était perdu d'avance. Il est dans le déni, il est plus réceptif. Même si c'était bon, on était partagé.
Non, après, c'est pas parce qu'on a cette impression-là que ça empêche de faire ce qu'on...
Voilà. Bien sûr, oui, oui.
Mais c'est clair que si, comme vous dites, si on devait avoir... ce serait péjoratif, quoi, comme tableau, ouais, c'est clair. Mais après, ça n'empêche pas de tout faire, parce que... Oui. Parce que si on fait rien parce qu'on pense que c'est foutu, voilà. Dans notre expérience, dans mon expérience qui est courte, c'est clair que c'est la plupart du temps, ces gens-là, voilà, ils ont un pronostic vital court et en général ça se confirme à la fin, mais vous avez des exceptions. Les seules exceptions, ça vaut le coup de se battre. Quoi.
C'est clair.
On a un patient qui s'est fait greffer et puis qui est bien.
Non, moi je le vois tout le temps.
Tu le vois?
Ouais. Il est super bien, il est tout rose, il est plus jaune, il est tout rose. Mmh. Il a fait 10 kilos parce qu'il n'arrête pas de bouffer. Il va faire une stéatose hépatique sur son greffon. Mmh. Il y a un autre monsieur aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, un monsieur qui était de ce côté-là, qui était tout jaune, qui avait un Crohn, qui était tout maigre comme ça. Et tout. Mmh. C'est pareil, alors lui, je ne le donnais pas. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il est super bien et je ne l'ai même pas reconnu, il est tout rose, tout bien, il a pris 10 kilos, son crâne est bien. Donc les seules exceptions, le peu de cas qui vont s'en sortir, ça vaut le coup. Quoi.
Ouais.
Oui. Vous les croisez, super, regardez, je suis super bien. Ça compense tous les déceptions que vous avez ailleurs. Quoi. Donc ça vaut le coup, ça vaut toujours le coup. Quoi. Mais ça marche.
Vous remercie beaucoup, tout le groupe, de vous avoir encore des chances.
Attends, on va photocopier.
Ok.
On va photocopier.
Ah oui.